Radio Kapi. Oh, Kapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée, dont voici les titres. Au Sud Kivu, les épreuves certificatives des examens de hors session se sont déroulées différemment selon qu'on se trouve dans les entités administrées par le gouvernement central ou dans celles sous contrôle de la rébellion AFC M23. Le taux de participation des candidats a beaucoup baissé dans la sous-division éducationnelle de Calais 1. Nous parlerons aussi dans ce journal de cet appel du président de l'Assemblée provinciale du Sankuru qui demande aux députés provinciaux à regagner Lusambo. En effet, 10 jours après leur départ massif pour Kinshasa, les travaux parlementaires sont quasiment à l'arrêt. L'invité de ce journal, c'est Bruno Lemarquis, le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC. Dans un entretien accordé à Radio Kapi, il fait le point sur la situation humanitaire en Ituri, les défis qui persistent ainsi que les pistes de solutions durables pour sortir de la crise humanitaire et sécuritaire à l'est du pays. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal par lieu de la mi-journée sur la radio de la paix. Les épreuves certificatives des examens d'État hors session 2025-2026 se sont déroulées à deux vitesses dans la province du Sud Kivu, selon que l'on se trouve dans les entités administrées par le gouvernement central ou dans celles sous contrôle de la rébellion AFC M23. D'après les autorités éducationnelles, le taux de participation des candidats a fortement baissé dans la sous-division éducationnelle de Calais 1. Cette diminution est attribuée à la psychose provoquée par les récents affrontements survenus dans les hauts plateaux des Iralo entre l'AFC M23 et les Wazalendo. Jean Kassami nous en fait le point.
Selon différents responsables des sous-divisions éducationnelles du Sud Kivu, la déperdition des effectifs a été plus observée dans les zones récemment marquées par des violences armées entre les belligérants. Mahesh Interani Pascal dirige la sous-division éducationnelle Calais 1.
Nous avons connu un abandon terrible de 12%, soit 440 élèves. Les causes sont généralement l'instabilité sécuritaire dans certaines zones. Même si les épreuves sont prises en charge par le gouvernement central.
Ailleurs, comme dans les territoires de Fizi, en majorité dirigés par le gouvernement, il y a eu aussi des perditions des effectifs bien qu'à faible échelle. Et Nundu Selemani César, chef de la province éducationnelle Sud Kivu 2.
Nous avons remarqué peu d'abandon, oui, cela est dû peut-être à la situation sécuritaire qui prévaut dans notre entité. La plupart des élèves, ils ont répondu au rendez-vous.
Ici, la gratuité de la participation aux épreuves a motivé plusieurs élèves à braver les contraintes des barrières payantes sur certains axes du territoire de Fizi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Dans le même registre, participer à ces épreuves préliminaires de l'examen d'État est un véritable parcours du combattant pour les finalistes du centre de Boabo dans les territoires des massifs au nord Kivu. Depuis le début de ces épreuves, plusieurs doivent parcourir 24 km à pied chaque jour pour rejoindre leur nouveau centre d'examen situé à Massissi Centre, 12 km à l'aller et autant au retour. Ceux qui ont la chance d'avoir des proches à Massissi Centre y sont hébergés le temps des épreuves. Initialement installés à Boabo, leur centre a été délocalisé en urgence à la veille des épreuves vers l'Institut de Massissi à cause de l'insécurité dans leur village. Pour l'inspecteur Raymond Batindé, cette situation est déplorable. Sur les 249 candidats initialement inscrits, seuls 159 ont pu se présenter. On l'écoute au micro de Rosalie Zawadi.
Si on a délocalisé le centre, ce n'est pas parce qu'on est contre Boabo, c'est dû à l'insécurité. Donc, Kani, juste à la veille, un village proche du centre, la nuit, les assaillants ont tué des gens là-bas. Et cela a causé à ce que le centre soit déplacé vers Massissi. Ce n'est pas la première fois, même l'année passée, ils avaient passé l'examen ici. Certains logent dans des familles d'accueil, d'autres rentrent jusqu'à Boabo. Nous sommes des déplacés, oui, internes, comme les autres, même à Boabo. Certains avaient quitté le milieu avant les jours d'examen, car l'insécurité persiste là-bas. Donc nous avons eu 90 absences hier et 16 élèves étaient déplacés suite à l'insécurité.
L'examen se passe dans de meilleures conditions.
Aujourd'hui, nous faisons le tradit avec les élèves qui sont présents ici au centre.
Pour la première fois, les finalistes du secondaire en République démocratique du Congo passent cette année une épreuve orale d'anglais lors de la dissertation. À ce sujet, le chef du département des lettres et civilisations anglaises de l'université pédagogique de Kananga-Upkan, le master Sylvain Chitoko, salue cette décision du gouvernement congolais. Selon lui, cette initiative doit encourager les élèves à s'investir davantage dans l'apprentissage de l'anglais, considéré comme une langue de la mondialisation. Cependant, il invite les enseignants à adapter leurs méthodes pédagogiques afin de permettre aux élèves d'atteindre un niveau suffisant pour réussir cette épreuve orale sans difficulté. Suivez les masters Sylvain Chitoko au micro d'André Katendinga Lamouloumé.
Vous savez que l'anglais, c'est une langue que beaucoup de nos élèves négligeaient au secondaire. Alors, ils ne savaient pas que l'anglais était une langue très importante dans le monde qu'ils devaient apprendre. Donc, les élèves maintenant seront stimulés à apprendre l'anglais. Je pense que certains iront même dans des centres pour qu'ils apprennent. Pour le moment, ils n'ont pas les niveaux parce qu'ils négligeaient l'anglais. Mais ce qu'il faut faire, c'est que les enseignants changent les méthodes d'apprentissage. Il faut savoir que l'anglais est une langue internationale, c'est la première chose. C'est la langue qui donne l'accès aux affaires, c'est la langue de commerce, c'est la langue de l'information et de communication. Pour le moment, celui qui ne sait pas utiliser l'outil informatique et qui ne connaît pas l'anglais est considéré comme un illettré. C'est une langue de recherche.
Je le disais en titre, au Sankuru, le président de l'Assemblée provinciale appelle les députés à regagner Lusambo. 10 jours après leur départ massif pour Kinshasa, les travaux parlementaires sont quasiment à l'arrêt alors que la session en cours est consacrée au contrôle parlementaire. Les précisions avec Esther Ndalafina.
Dans un communiqué publié la semaine dernière, le président de l'Assemblée provinciale, Salomon Osako, demande aux députés provinciaux de revenir sans délai à Lusambo. Il rappelle que la session actuelle doit se poursuivre normalement en attendant l'audition du programme et l'investiture du nouveau gouverneur élu le 15 avril. Selon lui, l'absence prolongée des élus perturbe le fonctionnement de l'institution. Le président de l'organe délibérant invoque l'article 52 du règlement intérieur qui impose aux députés l'obligation de siéger pendant toute la durée des sessions. Le communiqué précise toutefois que 4 députés ne sont pas concernés par cet appel sans plus de détails. Pour rappel, depuis l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, l'hémicycle tourne au ralenti. Sur les 24 députés provinciaux, 19 ont quitté la province pour Kinshasa, un départ collectif qui avait suscité des vives critiques au sein même de l'Assemblée provinciale. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, la question du fonctionnement des églises en République démocratique du Congo s'invite au Sénat. Au cœur des débats en plénière ce mardi, la régularité de la délivrance des autorisations aux associations confessionnelles et le respect de la liberté des cultes. Le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Geffa, a été interpellé à la chambre haute du Parlement pour répondre à une question d'actualité du sénateur Clément Mouya Mouboyaï sur l'encadrement des églises en RDC. Face à la multiplication des structures religieuses, les sénateurs appellent à un meilleur encadrement pour éviter les dérives tout en garantissant un droit fondamental consacré par la Constitution. Les détails avec Grace Hamzati, notre permanent au Parlement.
Devant les sénateurs, le ministre de la Justice, Guillaume Geffa, indique qu'environ 19 000 associations confessionnelles sont actuellement reconnues en RDC, tandis que plus de 30 000 dossiers sont encore en cours de traitement. Un chiffre qui soulève des préoccupations quant à l'identification des responsables religieux et au contrôle des activités exercées sur le territoire national. Le ministre rappelle toutefois que la loi congolaise n'exige pas de permis de culte pour exercer une activité religieuse. Seule l'obtention de la personnalité juridique est requise pour les organisations. Il insiste sur le fait que la liberté des religions demeure un droit constitutionnel fondamental qui ne peut être limité que dans des cas exceptionnels, notamment en cas de menace à l'ordre public. Selon lui, la décision de juillet 2024, signée par son prédécesseur, Constant Mutamba, et a instauré un permis d'exercice du culte, a créé une confusion entre reconnaissance administrative et exercice d'une liberté fondamentale. Guillaume Ngefa estime même que cette pratique constituait une entrave arbitraire à la liberté religieuse, justifiant ainsi sa suppression.
Les jeunes du quartier Soyo dans la ville de Matadi alertent à une insécurité grandissante depuis plusieurs mois. Selon eux, des hommes armés, parfois vêtus comme des policiers, mènent des incursions nocturnes dans les habitations, emportant argent et objets de valeur. Face à ce qu'ils considèrent comme un manque de réaction des autorités, les jeunes ont mis en place des patrouilles nocturnes pour sécuriser leur quartier. Élisée Chikota pour plus de détails.
Je n'aimerais pas voir de gens ici épargnés parce qu'il y a des preuves et ils les témoignent eux-mêmes.
Excusez-nous, nous sommes allés trop vite en besogne. Province du Tanganyika, le gouverneur dénonce la libération par la justice de certains bandits considérés comme des multirécidivistes. Christa Kitungwa l'a fait savoir ce lundi à Kalemi. C'était à l'occasion de la présentation des plus de 30 présumés bandits répartis en 5 groupes. Ces individus sont accusés d'avoir sémé la terreur et la désolation dans la ville de Kalemi. Le gouverneur précise que la plupart de ces personnes opèrent avec des armes à feu. On écoute le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitungwa, dans ses propos sélectionnés par Paulin Munanga.
Je n'aimerais pas voir de gens ici épargnés parce qu'il y a des preuves et ils les témoignent eux-mêmes. Il y a des cas de gens qui ont été arrêtés plusieurs fois, plus de 4 fois, avec des armes. Ils se retrouvent dans la cité. Donc, j'aimerais que cette fois-ci, qu'on puisse vraiment faire les choses avec parcimonie pour qu'on puisse, in fine, donner la paix à cette population qui la mérite. La population du Tanganyika a beaucoup souffert. Quand vous regardez la chronologie de l'insécurité, on a quitté de bandits avec machette, donc avec armée blanche. On a arrêté tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons un grand défi sur la table, c'est le bandit à main armée. Et aujourd'hui, nous avons plus de 5 groupes ici qui opèrent avec des armes, preuve à l'appui. Et ce sont des armes de guerre, chose qui n'épargne personne. Et nous avons des cas de gens qui ont été touchés par des balles. Alors, à la population du Tanganyika, de continuer à collaborer avec nos services.
Les jeunes du quartier Soyo dans la ville de Matadi au Congo central alertent sur une insécurité grandissante depuis plusieurs mois. Selon eux, des hommes armés parfois vêtus comme des policiers mènent des incursions nocturnes dans les habitations emportant argent et objets de valeur. Face à ce qu'ils considèrent comme un manque de réaction des autorités, les jeunes ont mis en place des patrouilles nocturnes pour sécuriser leur quartier. Élisée Chikota Chivueta pour plus de détails.
D'après les jeunes du quartier Soyo, cette initiative est le fruit d'une concertation avec les parents afin d'assurer tant soit peu la sécurité de la population. Pour soutenir les patrouilleurs, une collecte est organisée et chaque soir fixée à 500 francs congolais par ménage. Témoignage d'un jeune habitant.
Nos policiers, combien de fois avons-nous appelé à l'aide, mais ils ne font rien. C'est pourquoi nous-mêmes jeunes du quartier avons pris les choses en main. Si nous ne faisons rien, les mamans et papas du quartier ne font que se lamenter. Dès qu'il est 1h, tout le monde se réveille. Pour dormir, il fallait attendre à moins 5h du matin.
Le commandant de la police nationale de Matadi, le colonel Baudouin Kalima, appelle pour sa part à une étroite collaboration entre la population et les services de sécurité.
Nous avons un numéro vert de la ville qui était distribué dans des communes, dans des églises, partout là. Voilà. Les gens doivent avoir la culture d'avoir le numéro des interventions. La population a l'unique mission de nous informer. Si telle maison a un problème, le voisin la peut appeler à la place de l'autre. Le mal est que beaucoup de gens ne dénoncent pas. Tout le monde doit être complice pour avoir la sécurité. Et la population, et nous, les agents de la police.
Selon les habitants, depuis la mise en place de ces patrouilles, les nuits sont redevenues paisibles, une situation qui paraissait impossible il y a quelques mois.
Retour dans la capitale après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa ces derniers jours. Plusieurs quartiers sont exposés à des risques. À Mongafula, dans le quartier Plateau 1, un éboulement de terre a provoqué la mort d'un homme et causé d'importants dégâts matériels. La population sous les chocs lance un appel urgent aux autorités pour une intervention rapide. Nancy Tambo Reportage.
Les drames se produisent à proximité de l'église catholique Sainte-Honorine où une maison a été ensevelie par un glissement de terrain entraînant la mort d'une personne. Témoignage d'un habitant.
La population du quartier Plateau 1, nous sommes en train de lancer alerte. Parce que la nuit du 5 au 6, la pluie a causé des dégâts énormes à telle enceinte que nous avons déjà enregistré mort d'homme dans les quartiers. La partie Bambila et le Marsavko est presque coupée. Nous lançons un appel vibrant aux autorités qui nous viennent en aide.
Le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu, confirme le fait et appelle au calme tout en invitant la population à assainir son environnement.
Oui, vers 22h, il y a eu une maison qui s'est écroulée. La maman était en fait aujourd'hui et le corps a été retenu. Nous sommes en train de nous battre pour essayer de dégager un peu la route nationale. Mettons-nous ensemble pour essayer de rendre propres nos rues. Devant nous, nettoyons, tirons les caniveaux ensemble et jetons les immondices dans les endroits appropriés.
Une situation préoccupante qui nécessite des mesures urgentes afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines.
Actualité internationale.
En Tunisie, poursuivi pour infraction financière, Halima Ben Ali, la fille de l'ancien président Zine El Abidine Ben Ali, a vu sa peine confirmée en appel par la chambre criminelle tunisienne spécialisée dans les affaires de corruption mardi 5 mai. Celle-ci ne vit cependant plus en Tunisie depuis qu'elle a fui le pays au moment de la révolution de 2011. Quant à la France où elle a été arrêtée en septembre dernier, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer à Dubaï, elle vient de refuser son extradition vers Tunis.
L'invité.
Le coordonnateur des opérations humanitaires en RDC, Bruno Lemarquis, a clôturé mardi sa visite en Ituri où il a échangé avec les gouverneurs, les acteurs humanitaires ainsi que les déplacés de la plaine de Savo dans les territoires de Djougou. Il indique qu'il s'agit de sa dernière mission dans l'est de la RDC après 4 années passées à ce poste. Dans un entretien accordé à Radio Kapi, il fait le point sur la situation humanitaire dans cette région, les défis qui persistent ainsi que les pistes et les solutions durables pour sortir de la crise humanitaire et sécuritaire à l'est du pays. Bruno Lemarquis s'entretient avec Isaac Remoyope.
Bonjour Bruno Lemarquis.
Bonjour.
Vous effectuez votre dernière visite à Ituri et dans l'est de la RDC. Quelle est la portée de cette mission qui vous a conduit notamment à Djougou, une zone où la situation reste très préoccupante?
Alors c'est une mission, pour moi je boucle la boucle puisque l'endroit où on se trouve là qui s'appelle Plaine Savo, c'est l'endroit où j'avais fait ma première mission en RDC en mars 2022. À l'époque il y avait eu un grand massacre, plus de 60 personnes avaient été tuées dans ce même site. Si je parle de Plaine Savo, c'est emblématique un peu de beaucoup de situations à l'est de la RDC par rapport à ces cycles de violence, ces cycles de représailles qui tournent et avec les populations civiles qui sont les premières victimes. Ici en Ituri, il y a 900 000 déplacés de personnes qui sont toujours déplacées internes. Donc ce sont des chiffres très très élevés si on le ramène à la population de la province. Et...
Depuis votre prise de fonction, comment a évolué la situation humanitaire sur le terrain? Parlez-vous aujourd'hui d'amélioration ou plutôt de détérioration?
Quand on compare les chiffres à l'époque et maintenant, c'est toujours entre 6 et 7 millions de déplacés internes. Beaucoup de personnes qui retournent chez elles, donc plusieurs millions chaque année de personnes retournées. Mais si des personnes retournent, d'autres personnes se déplacent. Donc ces chiffres, ils restent toujours très 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 élevés. La crise de la RDC, c'est essentiellement une crise des déplacements de population, des boucles sans fin, et puis des problèmes de protection. Protection de l'enfance, problèmes de violence basés sur le genre, les problèmes de violence sexuelle liée au conflit. Ça, c'est vraiment les marqueurs de cette crise congolaise.
Quels sont aujourd'hui les principaux défis qui persistent?
Peut-être mentionner 3 choses. D'abord, il y a eu la crise du M23 qui a entraîné un grand changement des besoins humanitaires. Le deuxième marqueur de cette période, ça a été la chute drastique des ressources humanitaires au niveau global, mais qui ont affecté la RDC. Pour donner quelques chiffres, en 2024, la réponse humanitaire en RDC a été financée à 50% et on avait réussi à mobiliser 1,3 milliard de dollars. En 2024, donc on est passé de 51% de financement à 27%. Donc il y a eu une chute massive. Et là maintenant, on est au mois de mai 2026, on est financé à peu près à 330 millions de dollars, alors que les besoins sont toujours aussi importants. Donc au niveau des acteurs humanitaires, maintenant on fait ce qu'on appelle l'hyper-priorisation. On doit vraiment prioriser sur les personnes les plus vulnérables, notamment les populations déplacées. On incite les humanitaires à ne plus jouer un rôle qui devrait être le rôle de l'État congolais, notamment pour tout ce qui est la fourniture de services sociaux de base. Donc on est en discussion permanente avec l'État congolais sur ce sujet, comment aider la montée en gamme, la montée en puissance de l'État congolais avec ses partenaires de développement pour que la prise en charge des services sociaux de base ne soit plus laissée aux humanitaires qui ne peuvent plus le faire aujourd'hui.
Selon vous, quelles solutions durables peuvent permettre de sortir de la crise sécuritaire et humanitaire à Ituri et plus largement dans l'est de la RDC?
Bon, moi, dans ma tête, il y a toujours quatre choses. La première, c'est les processus de paix, la volonté politique, les processus politiques, les processus diplomatiques. Donc les processus actuels, c'est le processus de Doha, temporairement délocalisé en Suisse, c'est le processus de Washington, c'est le rôle très important de l'Union africaine, donc ça ce sont tous les grands processus diplomatiques, notamment pour la crise liée à la crise du M23. Il y a tous le règlement pacifique des conflits, notamment en RDC, il y a eu le processus de Haru 1, Haru 2, donc ça c'est les processus au niveau de la province qui sont très très importants pour arriver à trouver une résolution pacifique des conflits, les conflits entre communautés qui entraînent tous ces déplacements. Donc ça c'est au niveau de la paix, c'est vraiment le premier facteur pour réduire les besoins humanitaires. Le deuxième, qui est vraiment très complexe et à long terme, c'est comment s'attaquer aux causes sous-jacentes des conflits qui touchent à la question de l'accès aux ressources, l'accès à la terre, tout ce qui touche à l'exploitation illicite des ressources naturelles. Donc, tout ça, ça contribue au cycle de violence. Donc, ensuite, il faut toujours travailler, dès qu'il y a des opportunités, sur ce qu'on appelle le nexus entre humanitaire, développement, paix, pour faire en sorte que dès qu'il y a une stabilisation dans une zone, dès qu'il y a un retour au calme, les acteurs de paix, les acteurs de développement, les acteurs humanitaires travaillent ensemble pour, par exemple, appuyer le retour des gens chez eux, le retour des déplacés, ce qu'on appelle les solutions durables. Ici, il y a une initiative remarquable sous le leadership du gouverneur de l'Ituri, mais il y a la même chose au Tanganyika, par exemple, de trouver des terres pour ces déplacés qui veulent se réinstaller quelque part. Et tout ça, ce sont les choses qui feront qu'un jour, en RDC, il y aura beaucoup, beaucoup moins de besoins humanitaires.
Bruno Lemarquis, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était notre invité, le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, qui s'entretenait avec Isaac Remoyope. Et voilà qui met fin à cette édition du journal Parlé de la mi-journée, coordonnée par Élisée Chikotachi-Voueta, supervisée par Alain Urung Mouchinge et mise en onde par André Mongou. Vous pouvez suivre ce journal sur notre page TikTok ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.